Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
T'es vieux, t'es moche, t'es seul au monde. Doucement, tu creuses ta tombe. Tu cherches le jour, où est la nuit. T'as de mes bactères finies.
Qu'est-ce qui t'arrive, Octave? T'as changé de drogue dernièrement?
Les psychotropes, c'est toute l'histoire de la poésie au 19e, hein. Ça, est-ce qu'on aurait eu une poésie comme celle de Rimbaud sans le haschich ou les fleurs du mal de Baudelaire ou... C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours frappé quand on étudie Baudelaire ou Verlaine ou Arthur Rimbaud. On les étudie généralement en classe de 3e ou 2e et les enfants, on leur dit tout sauf ça, évidemment. On se garde bien de leur dire la vérité.
Donc on nous a menti en fait pendant toutes les années lycée. Rimbaud et ses copains poètes, en fait ils étaient portés sur le bédo comme n'importe quels ados. Bon, bah heureusement que Banana Kush est là pour pallier les manquements de l'éducation nationale. Hein.
Celui qu'on reçoit aujourd'hui n'est pourtant pas prof de littérature, mais il en connaît un rayon. Écrivain, critique littéraire, dandy, libertaire, il s'appelle Frédéric Becbédé et on est très heureux de l'accueillir pour ouvrir cette nouvelle saison.
Et c'est déjà la 3e, c'est l'épisode 29 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel?
Des bananes.
Vous en voulez?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau!
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Faut-il encore présenter Frédéric Becbédé, écrivain, chroniqueur, critique littéraire, fondateur du Prix de Flore? On lui doit des romans comme Mémoire d'un jeune homme dérangé, 99 francs, un roman français, des films aussi, dont L'amour dure 3 ans, mais je m'arrête là sur la liste de ses activités, sinon on va y passer tout le podcast.
Frédéric Becbédé n'a jamais fait mystère de ses affinités avec certaines drogues, qu'il s'agisse de consommation régulière ou d'expérimentation plus ponctuelle. Elles sont largement présentes dans son œuvre, d'ailleurs, de l'ecstasy à la cocaïne.
C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas.
Mais il y a une substance en particulier sur laquelle on l'a très rarement entendu, et c'est celle qui nous intéresse, justement, dans Banana Kush, le cannabis.
On a retrouvé Frédéric Becbédé dans le restaurant de son hôtel préféré, le Grand Amour à Paris. Il a commandé un œuf mollet, et oui, il est comme ça, coquin. On a taillé le bout de gras en parlant bouquin, club des hachichins et bourgeois épicurien.
Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Camille.
Alors on va commencer par notre traditionnelle question dans Banana Kush. Quel fumeur de cannabis êtes-vous ou avez-vous été, Frédéric Becbédé?
Je ne fume pas de cigarette et donc pour moi, inhaler la fumée me fait tousser. Et dès l'adolescence, quand c'était la période de découverte du cannabis pour la plupart des jeunes de mon âge, quand j'essayais de tirer sur un joint, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, j'étais tout de suite ridicule. Je me mettais à tousser, j'avais des crampes de toux épouvantables et tout le monde se marrait et se moquait de moi. Donc j'ai jamais basculé dans cette pratique. C'est pas le cas d'autres produits qui sont entrés dans ma vie et mon œuvre. Mais non, j'ai dans les années 80, c'était plutôt la mode de l'ecstasy, de la cocaïne. Dans le dernier roman, je parle de la kétamine, qui est très à la mode. Mais c'est vrai que je ne suis pas un grand spécialiste du cannabis. Alors tout de même, je m'étais aperçu dans cette période, vers mes 18-19 ans, que l'herbe pure fumée dans une pipe, ça passait. Je ne toussais pas. Donc j'inhalais de l'herbe pure. Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez l'effet que ça peut faire. C'était des produits très forts. Et donc j'étais immédiatement soit explosé de rire, mort de faim, finissant les biscuits mous de mes placards. J'ai remarqué qu'il y avait un effet assez érotique, un effet aphrodisiaque en fait. Voilà, donc ça, c'est, je me suis toujours dit que c'était peut-être la drogue la plus saine que j'ai jamais goûtée, pour ces raisons-là, puisque tous les autres produits dont j'ai parlé coupent l'appétit et empêchent la libido. Et donc, voilà, mon souvenir, c'est ça. J'ai complètement arrêté parce que fumer dans une pipe de l'herbe pure, c'est quand même très fort. Ça dure longtemps. Ensuite, on est très fatigué. On devient un petit peu paranoïaque parfois. Ça dépend des produits. Et donc, bon, j'ai eu cette phase où je m'amusais. Par exemple, je pouvais regarder la télévision pendant des heures en trouvant tout très, très intéressant. Je me souviens d'une déformation temporelle. C'est-à-dire qu'il me semblait que 5 minutes duraient une heure, quoi. Ça prolonge le temps. Et puis tout d'un coup, il est 6 heures du matin et on n'a fait que regarder des conneries à la télévision.
Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juin seront enregistrées les émissions du grand jeu de TF1 Tournée Manège au studio 17 des Buttes-Chaumont.
Bon, puis quand on est avec des amis, c'est très rigolo, c'est vrai, mais c'était quand même un peu trop fort pour moi. Donc j'ai un souvenir plutôt positif, mais voilà, je ne suis plus du tout adepte de cette consommation. Et j'ai jamais vraiment aimé le shit.
Toujours de l'herbe.
Oui, c'est toujours de l'herbe. Ouais. Je trouve que, je sais pas, l'idée que ça vient, que ça pousse comme ça, ce sont des plantes, je trouve qu'elles sont assez jolies. Ça vient dans un sac qui sent très très bon. Alors j'ai tout de même, ah oui, j'ai oublié un détail, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était un peu la mode d'aller à Amsterdam quand il y avait les coffee shops, et donc dans les coffee shops, on pouvait acheter de l'herbe, mais on pouvait aussi acheter des space cakes, des gâteaux au hashish, et ça, alors là, je crois que c'est une des drogues les plus fortes que j'ai jamais goûté. Le space cake, c'est très violent quand même, hein.
Vous vous rappelez du moelleux au chocolat?
Oui.
Ben, ce qu'il y avait dedans, c'était du shit. De la drogue.
Ah, alors c'était ça le drôle de goût que je trouve.
C'est presque du niveau des champignons hallucinogènes que j'ai essayé aussi à la même période à Amsterdam. Ils étaient en vente libre. Donc on faisait, c'était des voyages assez hallucinants. Je me souviens de voyages en groupe où on était clairement des narco-touristes. Et donc on allait à Amsterdam, on prenait une chambre d'hôtel, on allait dans un coffee shop. Et puis 48 heures plus tard, on était dans le train du retour. Voilà, sans trop se savoir ce qui s'était passé entre les deux. C'est, le narco-tourisme est une forme étrange d'amnésie. J'ai des souvenirs comme ça. J'ai des non-souvenirs d'Amsterdam.
Oui, c'est ça, plutôt.
Je n'ai pas visité cette ville.
Ça fait combien de temps ?
J'ai pas dû pratiquer depuis plus de 20 ans.
Hein. Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
C'est notre petit secret.
Banana split for my baby. A glass of plain water for me.
Alors, je reviens au fait que vous ayez eu vos premières expérimentations avec le cannabis, du coup, au lycée, avec les grands. Je crois que vous avez fait votre scolarité dans des grands lycées parisiens. C'était présent, le cannabis, au début des années 80, dans ce milieu-là ?
Plus au lycée Montaigne qu'au lycée Louis-le-Grand. Le lycée Louis-le-Grand, c'est celui où j'étais en seconde, première, terminale, donc vraiment lycée. Mais le collège Montaigne avait mauvaise réputation. C'était un collège de beaucoup de jeunes de Saint-Germain-des-Prés, de milieux très bourgeois, mais aussi certains un peu plus voyous, un peu plus bandits. Et moi, j'avais 15 ans, 81, 16 ans, élection de François Mitterrand. Tout ça, ça s'est un peu ouvert à ce moment-là, mais pas du tout à Louis-le-Grand. Louis-le-Grand était vraiment un lycée de un peu de premier de la classe, très, très faillot, très sérieux, très sage. Et puis ensuite, ça, j'ai fait Sciences Po. Et là, à Sciences Po, ça a commencé aussi à devenir un peu décadent. Pas autant qu'aujourd'hui, bien sûr, mais enfin, oui, ça se lâchait un peu. Et j'ai commencé à même organiser des fêtes. J'organisais un club qui s'appelait le Cacasse Club.
Le donc club des analphabètes cons mais attachants.
Voilà. Et on faisait des soirées costumées. Donc évidemment, ça buvait beaucoup. Mais c'était surtout champagne, vodka, whisky. Pas tellement les drogues, dans mon souvenir, les drogues qu'on voit circuler dans la nuit sont arrivées plus tard.
plutôt vers la fin des années 80.
Donc oui, avec ce Cacasse Club, vous avez fait des soirées décadentes, pour le coup, de bourgeois décadents.
Oui.
C'était vraiment ça l'esprit du Cacasse Club, avec des soirées au bain-douche notamment, oui. Et on croisait des personnalités comme Édouard Baird, mais aussi comme Jean-François Copé.
Oui, Ariel Wiesmann, Emmanuel Debrandt. C'était certes un noyau composé de fils à papa, de bonne famille, mais aussi de plus en plus les artistes venaient, donc il y avait des gens du cinéma, des écrivains. Ça a duré 10 ans, hein, de 1984 à 1994. Enfin, c'était quand même grosso modo des BCBG qui se roulaient par terre, si vous voulez, pour résumer.
Et qui se roulaient des joints quand même un peu.
Mais pas tellement, c'est bizarre, mais pas tellement. Mes souvenirs de pétards sont plus liés à des voyages, à des week-ends dans des maisons de campagne, vous voyez, des choses comme ça. Pas tellement dans les fêtes, mais peut-être tout simplement parce que c'était vraiment très très interdit et très tabou dans ces années-là. C'était encore quelque chose d'assez grave. Aujourd'hui, quelqu'un qui allume presque un pétard au resto, on va même pas... presque pas à l'emmerder. À l'époque, il fallait vraiment beaucoup se cacher. Et c'est vrai que je pense qu'il y en avait certainement qui devaient fumer, mais je ne le savais pas. Et c'était quelque chose de vraiment secret.
Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant.
Puisque je vous ai tout dit.
Aussi, il faut dire, les années 80, c'était, si vous voulez, les début 90, la naissance de la techno, de la house music. Donc il y avait une drogue était associée à ça, qui est l'ecstasy. Et donc on parlait plus de cocaïne et d'ecstasy, pour être franc. Et je crois pas dans ma vie avoir vu des gens fumer des pétards dans une discothèque. Enfin, je ne sais pas, j'ai peut-être pas vu, mais je pense pas que le cannabis soit une drogue de boîte de nuit. Pour moi, l'ambiance, les lumières des boîtes de nuit, la musique de danse est plus associée à des drogues qui, comment dire, qui agitent, qui stimulent, qui réveillent, que des drogues plutôt relaxantes.
Banana Cush,
la 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 la.
Camille Diao,
la 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 la.
Christophe Payet.
La 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 la.
Puisqu'on parle de ce milieu aussi de la bourgeoisie parisienne, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la question du cannabis, les banlieues, les milieux populaires sont pointés du doigt, alors qu'on sait que le cannabis est consommé dans toutes les couches de la population, et y compris, pour le coup, dans les établissements scolaires les plus huppés, dans les milieux les plus bourgeois.
Bah oui. Il y a une la preuve. Ah oui, et ça date pas d'hier. Je vous parle de ça, c'était il y a 40 ans. Donc, bien sûr, oui, ça c'est un gros mensonge. De toute façon, vous savez, moi j'ai rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée. Je lui ai posé la question, quand est-ce que vous allez légaliser le cannabis ? Et donc il avait un discours très prohibitionniste encore, qui n'a pas changé en France depuis, je ne sais pas, depuis 60 ans, c'est la même chose. Donc il est pas du tout ouvert à la légalisation, ça m'a surpris.
Le Gaulois réfractaire au changement.
Il a un peu changé de discours aussi sur ce point-là, puisque dans le livre qu'il a publié avant de se lancer dans la course à la présidentielle, qui s'appelait Révolution, je crois, justement, il se montrait plutôt ouvert à une discussion autour de la légalisation. Puis une fois au pouvoir, on est souvent rattrapé aussi par le discours un peu plus sécuritaire.
Dans mon souvenir, sa femme était nettement plus ouverte que lui. Peut-être a-t-elle déjà expérimenté la chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, non, donc je sais plus pourquoi je me vantais d'avoir parlé au président de la République, c'est un peu ridicule.
J'ai des relations, des gens très haut placés, qui peuvent vous faire des très graves ennuis, des gens de haut rang.
Et alors si je reviens à la politique, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que vous aviez signé l'appel du 18 juin en 2006, qui est du coup un appel qui est lancé tous les ans par une association pro-légalisation.
Le Cirque.
Le Cirque, exactement. Pourquoi l'avoir signé ? À quel moment, vous, dans votre parcours, vous vous êtes dit, vous êtes convaincu qu'il fallait légaliser le cannabis et peut-être d'autres drogues?
J'ai ce point de vue un peu libertaire sur toutes les questions qui fait que ça m'attire des ennuis à chaque fois. D'ailleurs, l'appel du 18 juin avait été assez mal vu dans ma famille et le fait que je signe cette pétition m'avait un peu... Je me souviens d'avoir eu des conversations avec mes parents à l'époque. Mais moi, je vais plus loin, je suis pour la légalisation de toutes les drogues, même les dures, parce que je crois tout simplement que ça démantèlerait le trafic, les mafias,
ces énormes milliards de dollars pourraient être gérés par l'État, ils pourraient rapporter beaucoup au ministère de la Santé et permettre de contrôler la consommation, la qualité des produits. Vous voyez, ça serait quand même une révolution assez... une preuve de maturité de faire ça, de dire, bon ben les drogués sont des gens qui vont pas bien, il faut s'occuper d'eux, au lieu de les rejeter dans la clandestinité, il faut les aider à s'en sortir, et puis qu'on puisse, si on en a besoin, aller dans une pharmacie sur ordonnance, ça permettrait de gérer cette question-là de manière plus saine. Bon voilà, donc j'ai ce point de vue qui n'a pas changé depuis des décennies. Visiblement, mon idée n'est pas encore prête d'être mise en pratique.
Patience, Iago, patience.
On en parle de plus en plus, ça légalise énormément à l'étranger. Tous les pays sont en train de tendre vers la dépénalisation, la légalisation. Et en France, c'est vrai que si on prend la position du gouvernement et qu'on prend les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit que le cannabis, c'est de la merde, on en est très loin, on est même en train un peu de s'isoler, on dirait, sur le tableau international sur la question de la politique pénale des drogues. Comment vous lisez cette situation ? Est-ce que...
Je comprends pas. On est d'accord que c'est de la merde, si vous voulez, dans la mesure où l'alcool aussi, la cigarette aussi, et toutes les drogues sont dangereuses pour la santé. Si vous voulez, c'est toujours la même idée d'un État hygiéniste qui serait la nounou des citoyens, qui voudrait protéger les citoyens contre leur propre tentation autodestructrice. Pour moi, ça n'est pas la mission de l'État de me protéger contre mes démons. Et je suis plus fataliste à cet égard. Je crois qu'il y a des choses qui ne disparaîtront jamais. Je pense la même chose sur la prostitution, mais on va pas aller sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des malheurs qui ne disparaîtront jamais, qui sont liés au désespoir de l'être humain, à la misère sexuelle ou à l'angoisse contemporaine, existentielle, qui font que parfois on a besoin d'un produit pour fuir ses problèmes. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Je suis fataliste, je suis pessimiste en fait. Darmanin est optimiste, il croit vraiment que grâce à la police...
Il croit en l'homme.
Oui, il pense que l'homme est perfectible, que la morale triomphera et que les gens un jour arrêteront de prendre du cannabis grâce aux arrestations de la police. Mais si c'était vrai à ce moment-là, depuis le temps que c'est interdit et que la police y travaille, ça serait réglé. Le problème n'est toujours pas réglé et même loin de l'être. Donc ce qu'il faut dire, c'est simple, c'est que le point de vue prohibitionniste est puritain. C'est un point de vue moral et non pas un point de vue empirique. Donc, bon, ben voilà, dans ces cas-là, quand on voit que quelque chose ne marche pas, il faut essayer autre chose. C'est tout ce que je dis.
Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire ? Et ça, je peux te le jurer. Il établit des règles en opposition. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. C'est un refoulé, c'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais.
Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça?
Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme !
Banana Cush, sur Nick, la radio.
On avait envie de vous parler aussi un peu de littérature, Frédéric Becbédé. Dans l'un de nos tout premiers podcasts, le premier d'ailleurs, je crois.
C'était le premier.
On a reçu un autre écrivain que vous connaissez, c'est Johann Zarka, puisqu'il a remporté le prix de Flore en 2017, je crois, pour Panam Underground. Et lui, il nous racontait qu'il a longtemps écrit en enchaînant les pétards. Vous avez arrêté de fumer, vous, il y a très longtemps, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si oui, qu'est-ce que ça provoque?
Je trouve qu'on se perd, on peut relire 50 fois la même phrase, on se perd dans ses pensées et c'est très compliqué de se concentrer avec ce produit. Moi, je m'en tiens à la règle de Hemingway, il faut peut-être boire un peu pour écrire, pour se désinhiber. Et l'alcool, un peu, pas l'alcool fort, mais un peu de vin blanc, un peu de bière, ça désinhibe, on est moins timide, on est moins angoissé par la page blanche. Mais surtout, il disait se relire sobre. C'est tout ce que je conseille, parce que pour tous les autres, il y a alors beaucoup de poètes et d'écrivains, on va y venir, ont essayé de modifier la syntaxe par l'usage des drogues, des substances illicites. L'expérimentation sur le langage à travers les psychotropes, c'est toute l'histoire de la poésie au 19e. Hein. Ça, est-ce qu'on aurait eu une poésie comme celle de Rimbaud sans le haschich, ou les fleurs du mal de Baudelaire, ou même jusqu'à Henri Michaux, sans lui qui utilisait la mescaline. Non, c'est vraiment des écrivains qui ont voulu changer la littérature par des produits qui les emmenaient dans des voyages intérieurs.
Oui, parce qu'ils modifiaient leur état de conscience, et donc forcément ce qu'ils avaient à raconter et comment ils avaient à le raconter.
Oui, ça a influencé quand même tout le XXe siècle, c'est quand même pas rien. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours frappé quand on étudie Baudelaire ou Verlaine ou Arthur Rimbaud. On les étudie généralement en classe de 3e ou 2e. Et les enfants, on leur dit tout sauf ça. Évidemment, on se garde bien de leur dire la vérité.
Qu'est-ce que c'est que ces paradis artificiels?
Ces délires, les illuminations par exemple, ce sont des textes écrits sous influence, clairement. Et ça m'a toujours fait rigoler que des professeurs apprennent aux enfants cette révolution du langage sans dire le principal, quoi. Mais maintenant, bon, on est un siècle plus tard. Voilà, c'est pas la peine de croire qu'on va devenir Rimbaud en fumant un pétard. Je pense que non, ça a eu lieu déjà, voilà.
Alors justement, donc le cannabis a une longue et étroite relation avec la littérature. Quelles sont pour vous les plus belles pages sur le sujet ou sous influence à aller lire?
Je pense que vous avez cité Les paradis artificiels, parce que c'est vraiment un texte presque comme un manuel, un guide pratique, où Charles Baudelaire essaie de dire les effets de différents produits. Et c'est très très bien écrit. Mais en lisant Les fleurs du mal, on voit aussi qu'il y a des poèmes qui ont été probablement écrits au club des Achichins, dans cet hôtel particulier où se réunissaient Baudelaire, Dumas, Théophile Gautier, je ne sais pas qui d'autre, peut-être Barbet d'Aurevilly, je ne sais pas.
C'est quoi ce club des Achichins?
Le club des Achichins, ouais, c'était un peu un endroit comme un cercle des poètes défoncés, si vous voulez, qui a eu lieu, je crois, là, ouais, au milieu du 19e, par là, dans un endroit, l'île Saint-Louis, qui existe toujours, l'hôtel de Lauzin. Le truc qui est drôle, c'est que c'était pas, ils fumaient pas tellement à l'époque, ils mangeaient une confiture verte. C'était une confiture
de Space Jam,
de haschich, oui, c'est ça. Donc ils se présentaient comme l'absinthe, avec cette couleur verte, gélatineuse, et ils mangeaient des cuillères entières de ça. Puis ensuite, il digérait le truc, et puis une heure après, il planait complètement. Et,
wow.
Et c'est là que, oui, la révolution syntaxique et grammaticale de la fin 19e vient clairement de cette confiture. Et peut-être même que l'impressionnisme aussi a été influencé par des substances. Ce que je trouve assez paradoxal, c'est qu'on est dans un pays qui est très très fier de sa littérature, qui est enseigné à l'école. On fête cette année les 200 ans de Charles Baudelaire, on rend hommage partout à cet immense poète, et quelqu'un comme, je suis sûr, comme Gérald Darmanin ne me contredirait pas, c'est très très important ce qui s'est passé dans ces années-là de la poésie française, mais en même temps le même est pour interdire le produit qui les a inspirés. Et là on est dans le paradoxe complet.
Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison, imite les barreaux.
Je veux dire aux forces de l'ordre.
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux.
Qui ne doute jamais.
Des cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement.
À aucun moment.
Ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement.
Du fait que je serai toujours le premier d'entre eux.
Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme.
Et que la France et les Français,
l'espoir vaincu, pleure.
Attendent de nous.
Et l'angoisse atroce, despotique.
Que nous soyons un refuge et un exemple.
Sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir.
Et alors, si on va regarder, lire un petit peu au-delà des frontières françaises, est-ce qu'il y a d'autres auteurs, d'autres poètes qui auraient une relation avec le cannabis
et... Je dirais, la distinction, c'est que autant les poètes français donc, du 19e utilisent le cannabis pour imaginer une nouvelle forme de langage et de poésie, autant la Beat Generation, dans les années 50-60 aux États-Unis, eux voient cette consommation comme une façon de vivre. C'est une alternative à la vie capitaliste, bourgeoise, de consommation et de gens dont la vie est toute tracée, qui vont avoir le petit pavillon avec la voiture devant, la famille nucléaire, femmes, enfants, et obéissant à la publicité et tout ça. Donc ils se révoltent, et cette drogue devient non pas un moyen de changer le langage. Bon, encore que chez Kerouac, si, bien sûr, ça se voit. Il y a une poésie bebop qui est clairement inspirée par le cannabis et l'alcool. Et les écrivains américains dont je parle, de la Beat Generation, sont tous allés s'installer un peu à Tanger pendant une période où ils étaient là, très très proches des récoltes.
À la source.
Ils allaient à la source, directement à la source de l'approvisionnement. Mais en fait, c'est aussi surtout un mode de vie alternatif. Ils ont un rêve de vivre autrement qui engendre donc la Beat Generation et ensuite le mouvement hippie et puis toute la culture rock du XXe siècle. En fait, c'est vraiment né aussi avec le cannabis. Donc c'est quand même pas rien. Le cannabis a la vie culturelle, la culture occidentale a été très très influencée par ce produit.
Les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals.
Ring, 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 banana phone.
Frédéric Becbédé, aujourd'hui vous êtes un homme rangé. Vous avez quitté Paris, vous êtes installé dans le Pays Basque, vous êtes père de famille.
Pardon de vous interrompre, mais s'il y a bien un endroit qui n'est pas rangé, c'est le Pays Basque. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire.
En tout cas, vous avez un peu arrêté les excès, les drogues dures. Maintenant que vous avez des enfants, la drogue, c'est un sujet que, bon, ils sont petits encore, mais que vous allez aborder avec eux. Vous réfléchissez à la manière dont vous allez leur en parler, les mettre en garde, les éduquer à tout ça?
Oui, oui, bah vous savez, j'ai une fille qui a 21 ans, donc elle est quand même largement exposée à cette vie-là, la vie nocturne et tout. Et oui, j'essaie de lui faire part de mon expérience, lui dire les dangers, les risques qu'elle court, les tentations auxquelles il vaut mieux résister. Et voilà, j'espère que justement le fait d'avoir un papa qui est passé par là peut l'aider à être préservé. Et ce qui est dingue, c'est que quand on est, comme moi, très libertaire, et qu'on devient père de famille, tout d'un coup on devient super réac. C'est vrai, pour reconnaître que c'est terrible. Je vous tiens un discours de, voilà, en faveur de la légalisation et tout, mais sauf pour mes enfants. C'est affreux.
Si vous voyez votre fille fumer un joint, vous lui dites quoi?
Je l'ai jamais vue, mais je sais qu'elle l'a fait. Elle a fait, comme moi, ce voyage en Hollande avec ses copines. Et... bon, bah, c'est normal, c'est des phases par lesquelles on doit tous passer. Mais j'ai l'impression qu'elle a les pieds sur terre et qu'elle sait à quoi s'en tenir. Vous savez, les enfants, je crois que c'est plus important de leur dire qu'on les aime, tout simplement, qu'on est là pour eux. Parce que c'est ça qui leur donne la force, justement, de ne pas basculer
dans les excès. Les excès viennent souvent d'un manque de confiance en soi, une impression de ne pas avoir été aimé ou de vouloir à tout prix séduire. Je ne sais pas d'où viennent certaines personnes qui arrivent à gérer les drogues. C'est probablement parce que leurs parents leur ont dit cette phrase toute bête, je t'aime. Si on a entendu cette phrase dans son enfance, on est quand même à l'abri, je crois, un peu plus à l'abri que ceux à qui n'ont jamais entendu cette phrase.
Vous aviez un manque de confiance en vous qui vous a poussé vers les expérimentations?
Peut-être que j'ai eu cette impression. J'ai eu cette impression. Je raconte ça un peu dans un roman français. C'est vraiment un livre sur... Je me fais arrêter par la police en étant en train de faire un rail sur un capot de voiture. Je me retrouve en garde à vue et là, je me demande, mais qu'est-ce que je fous là? Et effectivement, c'est un livre sur le divorce de mes parents. Une histoire de secret familial, de non-dit, de choses qui m'ont donné une impression de peut-être que j'étais un enfant, non pas manquant d'amour, mais déstabilisé par le désamour de mes parents, par leur séparation brutale, non dite, non expliquée. Je pense en fait c'est ça, il faut vraiment expliquer le plus possible aux enfants et tout leur dire de manière sincère et transparente, parce que sinon, ils se racontent une histoire fausse et peut-être ils peuvent finir en garde à vue.
Bah, très bien, bah, merci beaucoup Frédéric Becbédé. Avant de vous quitter, on a une petite tradition dans cette émission, c'est la banane de fin, je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique.
Nick, la radio.
Ça c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise, si t'as la cerise, t'as le gâteau, si t'as le gâteau, t'as la crème, si t'as la crème...
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. Frédéric Becbédé, un dandy décadent devenu papa poule et aimant, comme quoi tout arrive, Christophe. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense, si on s'est retrouvés à l'hôtel Grand Amour.
Si ce cours de littérature improvisée vous a plu, sachez que Frédéric Becbédé a publié il y a quelques mois sa bibliothèque de survie, une sorte de hit parade, un top 50 de ses bouquins préférés, des romans souvent salaces, obscènes, impurs et parfois sous influence.
C'était donc l'épisode 29 de Banana Kush, ou devrais-je plutôt l'appeler saison 3, épisode 1. Christophe, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, faudrait qu'on revoie notre système de numérotation.
Ok, on en parlera. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir cette saison 3 au début de ce projet, donc merci à vous nos petits bananiers, oui c'est comme ça qu'on vous appelle désormais. Merci donc d'être toujours plus nombreux à nous suivre et à nous écouter.
On se retrouve dans un mois, ce sera le nouveau rythme cette année, avec un épisode dossier. Restez bien jusqu'à la fin du générique pour l'effroyable dilemme de la banane. De fin.
Ciao.
Ici Nika, chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige, Sticky, Trip et Joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique d'ithylamide et la
Et ben voilà, c'est l'heure de notre traditionnelle séquence de fin d'émission, la banane de fin, Frédéric Becbédé. On vous offre une banane, c'est vous qui la choisissez. Vous choisissez soit la banane jaune, soit la banane verte. C'est cadeau.
On partait avec quoi?
Alors,
je dois prendre un avion juste après, alors je ne suis pas sûr que je vais prendre la banane verte, pardonnez-moi.
Ah oui, effectivement, ou alors il faut la consommer avant de prendre l'avion.
Donc je vais partir pour le fruit bio.
Ouais, voilà. Le petit fruit bio.
Bon, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien très, très intéressant.
Merci à vous et puis à bon voyage.
Merci.
Merci.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Bitte mach mir ein Banane.